que j'en étais à l'accueil de ce qui est en train de devenir les paramètres de Clinton. Très mal reçu, très vite la presse locale israélienne et palestinienne en est informée, même si officiellement ces paramètres ne sont pas rendus publics. Du côté des Palestiniens, les radicaux, aussi bien islamistes que de gauche, rejettent les paramètres essentiellement sur deux points qui sont évidemment le non-retour aux lignes de juin 67 et la question du droit au retour des réfugiés. Du côté israélien, Barak ne peut pas se permettre un rejet comme on l'avait fait en 69 pour le plan Rogers ou en 82 pour le plan Hagan. La tactique suivre, c'est d'exprimer des réserves sous la forme de demandes de justification. Donc, c'est ce qui est entériné par le gouvernement le 28 décembre. Barak marque qu'il ne signera pas un document qui assurera aux Palestiniens un droit au retour, formellement ou pratiquement, et la souveraineté sur le mont du Temple. Et l'acceptation des pyramides est conditionnée à l'acceptation préalable du côté des Palestiniens. Les demandes de clarification israélienne outre le mont du Temple et le droit au retour portent sur les problèmes de sécurité et sur l'étendue des annexions. Et là, on voit une nouvelle fois le biais américain, puisque les Américains, contrairement à l'engagement préalable, considèrent que ces demandes de clarification ne sont pas contraires aux paramètres. Et donc, ils attendent l'acceptation préalable d'Arafat pour ensuite faire un retour vers les Israéliens. Du côté palestinien, on cherche à savoir qu'est-ce qu'on a défini exactement par location de territoire. La réponse israélienne, c'est que ce serait une location de 1% de la Cisjordanie pour une durée de 999 ans, ce qui évidemment ne satisfait pas la partie palestinienne. Mais les Américains répondent qu'ils ne sont pas engagés par cette réponse. Le 28 décembre, Arafat transmet cette propre demande de clarification qui s'appuie sur l'expérience palestinienne depuis Oslo 1. Donc, rappelle qu'il faut s'en tenir aux résolutions 242 et 338 ainsi que la 194 de l'Assemblée générale pour le droit au retour. Les Palestiniens n'accepteront une proposition qui garantit l'établissement d'un État palestinien viable et le retour des réfugiés dans leur foyer. Il faut un ensemble très détaillé, sinon on se retrouvera dans la même situation que pour les accords d'intérim qui ont dû constamment être renégociés sur la base de la bonne volonté d'Israël. Il doit donc y avoir des garanties effectives d'application. On ne peut raisonner en fonction de pourcentages imprécis, il faut des données cartographiques. Les revendications israéliennes des territoires palestiniens doivent être justifiées séparément et ne pas porter au tort aux intérêts palestiniens. La question des pourcentages, il faut définir des pourcentages de quoi ? Cisjordanie plus Jérusalem plus les micro-annexions israéliennes plus Mer Morte ou seule Cisjordanie. Ça ne donne plus la même valeur au dit pourcentage. Parce que si on est sur cette base, c'est plus 96, mais 90% des territoires occupés en 1900. 67. Et la carte, première carte que l'on a, montre qu'il n'y a pas de continuité géographique du futur État palestinien. Il y a un problème d'alimentation de l'ordi. Mais ça ne s'est pas passé là. Bon. De même, la question des ressources en eau n'est pas évoquée. Et de même, il faut vraiment définir exactement les catégories utilisées pour les échanges de territoire pour qu'ils soient égales en taille et en valeur. Parce que si vous donnez des terres arables arrosées contre du désert, ce n'est pas exactement un échange équivalent. La notion de souveraineté horizontale n'a pas de sens en ce qui concerne le haram. Il n'y a de souveraineté que verticale en droit. Mur occidental n'est pas la même chose que mur des lamentations. On a vu ça la dernière fois. Définir que les secteurs arabes seraient arabes et les secteurs juifs, juifs pour Jérusalem impliquerait que la Jérusalem arabe serait une suite d'enclaves sans contiguïté géographique, contrairement au secteur juif. Si vous faites une continuité des secteurs juifs, vous ne pouvez pas voir une continuité des secteurs arabes, et inversement. C'est là le problème pour Jérusalem. Donc, il faut de plus qu'il y ait contiguïté territoriale entre Jérusalem arabe et le reste de l'État palestinien. Sinon, une Jérusalem arabe qui serait enclave dans un État palestinien qui serait lui-même une enclave dans le territoire palestinien ne peut pas être considérée comme viable. Par ailleurs, et ça c'est la discussion qu'on a encore aujourd'hui, les Palestiniens considèrent qu'ils ne peuvent pas être garants du fait que l'État d'Israël soit un État juif ou non. C'est une affaire de l'État d'Israël, ce n'est pas une affaire des Palestiniens. Donc, cet ensemble de clarifications, qui portent aussi sur les stations d'alerte, etc., constitue une série de critiques majeures des paramètres de Clinton qui sont assez fondées pour la plupart, d'autant plus qu'elles reflètent les déceptions engendrées par l'application des accords d'Oslo. Là, on a vraiment le choc orto des 7 ans de négociations précédentes. Et on est toujours dans la même opposition entre une approche israélo-américaine qui résume en termes de marchandage et une vision palestinienne qui parle d'application de droit. C'est particulièrement visible en ce qui concerne l'interprétation maximaliste du droit au retour. Là, la réponse américaine, c'est qu'on se trouve en dehors des paramètres. Donc, pour sauver la situation, les Américains considèrent qu'il s'agit là d'une non-réponse. On est genre des non-papiers, on fait des non-réponses dans le processus de paix. On veut jouer de l'Égypte pour forcer Arafat à céder. On annonce un sommet Arafat-Barak à Sharm el-Sheikh, puis c'est annulé. Puis on envoie un négociateur israélien présenter à Barak les propositions israéliennes qui seraient considérées pas raisonnables par Moubarak. En tout cas, c'est ce que donne le récit israélien. Mais quand les Égyptiens en informent les Palestiniens, les Palestiniens leur répondent que ce n'est pas du tout ce que les Israéliens ont avancé à Washington et qui ont été annoncés à Barak. Barak est très affaibli dans cette période, la campagne électorale se tourne contre lui, la majorité de l'opinion publique est contre les paramètres de Clinton, la violence se poursuit à un niveau élevé. Bref, le bilan au 31 décembre est de 362 morts, 305 Palestiniens, 43 Juifs israéliens, 13 Arabes israéliens et un Allemand. Ce jour-là, deux membres de la famille Kahane, l'ancien leader assassiné de l'extrême droite israélienne, sont tués alors qu'ils circulaient en voiture en Cisjordanie. Le lendemain, un cadre supérieur du Fatah, plutôt connu pour des positions modérées, est tué par l'armée israélienne. Les Palestiniens y voient un attentat ciblé pour venger l'attentat de la veille, tandis que les autorités militaires israéliennes laissent entendre qu'il s'agit d'une victime collatérale d'un échange de tirs. Le 1er janvier 2001, Barak réunit les responsables de la négociation. Selon son analyse, Arafat ne sera pas capable de conclure un accord qui ne mentionnerait pas le droit au retour, d'où l'impossibilité de progresser dans les jours à venir. Il faut se concentrer sur la cessation de la violence et continuer à travailler un désengagement unilatéral. Les amis arabes des États-Unis, menés en particulier par le prince Bandar Ben Sultan, martèlent avec insistance auprès d'Arafat que les paramètres de Clinton sont les meilleures offres qu'il peut obtenir et que la prochaine administration Bush, selon toute probabilité, se désengagera de ce dossier. Ils obtiennent un nouvel entretien Clinton-Arafat le 2 janvier. Ce sera la dernière rencontre entre Arafat et un président des États-Unis. Le climat est tendu. Pour Arafat, les propositions de Clinton ne sont que des opinions. Elles manquent surtout de précision pour ce qui concerne le contenu territorial et sont trop précises pour le reste. Mais ça ne constitue pas un rejet de sa part. L'impression qu'il donne est qu'il peut vivre à l'intérieur des paramètres si on les prend comme base pour un accord cadre et non comme un traité définitif qui mettrait fin au conflit. Donc, à ce début janvier, on peut dire qu'on a un oui de Barak conditionné à une acceptation par Arafat et un renvoi après l'élection du premier ministre israélien, et un oui mais d'Arafat constitué surtout par une demande de définition concrète des propositions. Pour Clinton, l'accord est encore possible si le niveau de violence diminue régulièrement. Une délégation israélienne sera à Washington le 6 janvier. On discute des questions de sécurité, de l'envoi possible d'une personnalité américaine sur le terrain chargée de vérifier si l'amélioration des conditions de sécurité permet d'envisager la tenue d'un nouveau sommet tripartite. De fait, George Tenet, le chef des ACIE, travaille à partir du Caire à établir un plan de sécurité. Les Israéliens précisent leurs préoccupations par rapport aux paramètres. La division de la vieille ville de Jérusalem, le statut du mont du Temple, les arrangements de sécurité dans la vallée du Jourdain, le vocabulaire utilisé pour la question des réfugiés et les échanges de territoires. Les Palestiniens confirment qu'ils sont prêts à un accord et que Arafat est prêt à céder sur le droit au retour si on lui permet de sauver la face devant son peuple et le monde arabe. Le 7 janvier 2001, Clinton fait une déclaration publique devant un parterre de personnalités juives américaines destinée en quelque sorte à officialiser la politique. Il travaille à se montrer équilibré entre les partis tout en multipliant les appréciations positives de Barak. Il affirme que Barak et Arafat ont accepté, tout en émettant des réserves, les paramètres. Ces derniers ne sont pas là pour résoudre les questions, mais pour en délimiter les réponses. La solution repose sur un État palestinien qui prend en compte les besoins de sécurité d'Israël et les réalités démographiques. Pour assurer sa viabilité, il doit disposer de la contiguïté géographique. Il reprend les termes déjà indiqués sur les blocs de colonisation, mais il n'hésite pas à parler de droit à retour tout en refusant à l'appliquer à Israël proprement dit. Et pour Jérusalem, toujours le même principe. Il reconnaît que ces paramètres impliquent de gros sacrifices de la part des deux côtés, mais c'est indispensable. Il faut deux États puisqu'il y a deux peuples. Le 11 janvier, les négociations reprennent à Eretz dans une atmosphère particulièrement tendue. Les Palestiniens reprennent leurs réserves sur les paramètres, ce qui est considéré par les Israéliens comme un rejet. Le 13, Peres Arafat préside une nouvelle réunion des deux délégations. On s'accorde sur le fait que le calendrier est de plus en plus court et on s'entend sur l'établissement d'une liste de points d'accord définissant ainsi ce qui reste à négocier. À cette mi-janvier, semble se voir une diminution relative de la violence. Le 16 janvier, pour la première fois, on commence à discuter cartographie pour Jérusalem. Et ce qui avait été refusé jusque-là du côté israélien. Mais la carte israélienne globale correspond à une annexion de 9,6% de la Cisjordanie et ne mentionne pas d'échange de territoire. À la rencontre suivante, les Palestiniens refusent de fournir leur propre carte. Barak se montre découragé. Le 18 janvier, Ben Ami Arafat, lors d'une réunion au Caire, décide d'engager des négociations marathon avant l'élection israélienne. Arafat suggère Taba en Égypte, à proximité d'Israël. Le 19 janvier, Clinton adresse des lettres d'adieu aux Israéliens et aux Palestiniens, les adjurant de ne pas se lancer dans la violence. Mais Dennis Ross, dans la presse américaine, lui, s'en prend violemment aux Palestiniens qui ne se rendent pas compte de ce qui est possible et ce qui ne l'est pas et qui ont recours à la violence. Il reconnaît qu'en tant que juif, il a été troublé quand les Palestiniens ont mis en cause la relation historique juive avec le mont du Temple. Interrogé sur la sincérité d'Arafat, son sentiment est qu'il a toujours eu à l'esprit certaines positions ultimes et que la question est d'être capable de concilier ses positions ultimes avec celles d'Israël. Le 20 janvier est le moment de passage de flambeau entre l'administration Clinton et la nouvelle administration Bush. Mais le gouvernement israélien, lui, a accepté la rencontre de la dernière chance à Taba. Elle commence le 21 janvier, en l'absence des Américains, évidemment, puisque la nouvelle administration tient à maintenir ses distances avec l'héritage de la précédente et n'a envoyé que des observateurs. Ceux qui sont le plus présents à Taba, ce sont les Européens, avec en particulier Moratinos, qui dirige la délégation européenne. Pour la première fois, il n'y a que des observateurs étrangers, pas des médiateurs, et les partis sont seuls pour une rencontre de ces niveaux. Il y a des doutes sur la validité du mandat de la délégation israélienne à une telle proximité des élections, mais tous ont le sentiment de l'importance historique du moment. La première session de Taba porte sur la définition de l'objet de la conférence, arriver à un accord cadre sur la base des propositions de Clinton, avec les réserves déjà exprimées par les deux parties. On s'accorde sur la composition de deux commissions. La première est dirigée par Bailey Neshart sur les réfugiés. La seconde portera sur les autres dossiers. Et il y aura une équipe de rédaction dirigée par Gilad Cher et Arekat pour coordonner les deux groupes. On se disperse ensuite pour permettre des discussions individuelles entre personnes qui se connaissent depuis longtemps. Donc là, vous avez la dernière carte, celle dite de Taba. Le 22 janvier, les Israéliens soumettent une carte laissant 92% de la Cisjordanie aux Palestiniens. Ces derniers répondent que c'est inacceptable et qu'après tout, on peut concentrer les colons en quelques lieux. Ils veulent une carte sur la base de 96% de la Cisjordanie, en y incluant Jérusalem-Est. Les débats sont aussi durs sur les questions de sécurité et sur les réfugiés. Les Palestiniens refusent tout ce qui pourrait apparaître comme une poursuite de l'occupation. Le 23 janvier, la contre-proposition palestinienne est loin de permettre une application à 80% des colons. Mais la violence s'intensifie. Le Hamas publie des photos d'attentats contre les Israéliens et surtout, donc ça c'est des photos d'attentats envoyées par le Hamas, surtout deux Israéliens sont assassinés en Cisjordanie. Barak suspend provisoirement la négociation. Le 24 janvier, une rencontre secrète a néanmoins lieu qui aborde la possibilité de tenir un sommet Arafat-Barak qui déboucherait sur une déclaration commune. Le soir, le gouvernement israélien autorise la reprise des négociations pour le lendemain, jeudi 25, ce qui laisse moins de deux jours avant le Shabbat. La journée du 25 janvier voit une âpre discussion sur Jérusalem. On se parle encore dans la matinée du 26 janvier. Les Palestiniens participent ensuite à un dîner de Shabbat à Eilat, dans une atmosphère plutôt cordiale. Au soir du samedi 27, il est clair qu'il n'y aura pas d'accord, mais que l'on a bien progressé. On travaille à un communiqué commun qui est publié le lendemain, donc le 28. Je cite, « Les délégations israéliennes et palestiniennes ont conduit pendant les 6 derniers jours de sérieuses, profondes et concrètes négociations dans le but d'établir un accord permanent et durable entre les deux parties. Les pourparlers de Tabar ont été sans précédent par leur atmosphère positive et l'expression d'une volonté mutuelle de combler les besoins nationaux, existentiels et de sécurité de chacune des deux parties. Étant donné les circonstances et les contraintes de temps, il s'est révélé impossible d'arriver à une entente sur toutes les questions en dépit des progrès substantiels qui ont été enregistrés sur chacun des dossiers examinés. Jamais les deux parties n'ont été aussi proches d'un accord et elles partagent la conviction que les fossés qui demeurent peuvent être comblés par une reprise des négociations au lendemain des élections israéliennes. Les deux parties s'engagent à recouvrer un processus de normalisation et instaurer une sécurité stable, tout en respectant les engagements pris lors du sommet de Sharm el-Sheikh. Les négociateurs ont privilégié quatre thèmes principaux, les réfugiés, la sécurité, les frontières et le statut de Jérusalem, dans le but de trouver un accord final qui permettra de mettre fin au conflit et d'instaurer la paix entre les deux peuples. Les deux parties ont tenu compte des idées suggérées par le président Clinton, chacune avec leurs avantages et inconvénients respectifs. Sur toutes ces questions, il y a eu des avancées indéniables dans la compréhension de l'autre, et pour quelques-unes d'entre elles, les deux parties se sont rapprochées. Comme il a été mentionné précédemment, le calendrier politique a empêché d'aboutir à un accord. Cependant, à la lumière des progrès significatifs de rapprochement entre les parties, celles-ci sont convaincues que dans peu de temps et dans l'urgente nécessité d'aboutir à un accord, il sera possible de concilier les divergences et de trouver un accord de paix stable entre les deux. À cet égard, les deux parties sont persuadées qu'elles peuvent commencer d'avancer dans le processus à la première occasion. Les pourparlers de Tabar achèvent une phase importante dans le processus de négociation israélo-palestinienne en ayant réussi à instaurer à nouveau la confiance entre les deux parties qui n'ont jamais été aussi proches de trouver un accord. Nous quittons Tabar avec de l'espoir et dans un état d'esprit de réussite mutuelle, reconnaissant que les bases ont été posées des deux côtés pour établir une confiance mutuelle et faire progresser tous les problèmes cruciaux. Les parties expriment leur gratitude au président Hosni Moubarak pour avoir accueilli et facilité ses pourparlers. Elles remercient également l'Union européenne pour son soutien aux pourparlers. En dehors du communiqué de Tabar, nous disposons d'un document qui est un compte-rendu de la négociation dressé par le représentant européen Miguel Moratinos. C'est ce qu'on appelle le document Moratinos, qui n'a pas été reconnu comme valide du côté israélien. On considère que Moratinos en a rajouté un peu trop, mais ça reste quand même le document essentiel de Taba à côté du communiqué final. Donc, le document Moratinos mentionne que les parties, pour la première fois, ont travaillé sur la base de cartes opposables l'une à l'autre. Les paramètres de Clinton ont servi de base générale à la discussion. Reste qu'il y a des divergences d'interprétation concernant la signification et l'étendue de ces paramètres. La partie palestinienne a déclaré qu'elle avait accepté les propositions de Clinton avec des réserves. La question porte sur le problème de l'annexion des blocs d'implantation et de leur annexion à l'État d'Israël. Les Palestiniens refusent parce que ça porte tort aux intérêts des Palestiniens, en particulier aux habitants arabes de la zone des blocs d'implantation. Parce que c'est toujours le même problème. Vous ne pouvez pas relier chaque colonie de façon individuelle à l'État d'Israël. Vous devez les intégrer dans un bloc à l'État d'Israël. Mais du coup, ça implique qu'on emporte dans le paquet la population arabe du secteur. Ce qu'on vous parle, on vous mentionne très rarement dans vos journaux. La question de la vallée du Jourdain et le fait que la partie israélienne reconnaît que les colonies des implantations dans la vallée du Jourdain n'ont pas de valeur sécuritaire. Alors, les deux parties ont accepté le principe d'un échange de territoire, mais son importance n'a pas été déterminée. Les Israéliens ont réclamé 2% de territoire supplémentaire dans le cadre d'un accord de location. Les Palestiniens ont répondu que l'accord de location ne pourrait être discuté qu'une fois l'État palestinien constitué et le transfert de territoire vers l'État palestinien fait. Des deux côtés, il était implicite que la totalité de la bande de Gaza passerait sous souveraineté palestinienne et que toutes les implantations israéliennes de la bande de Gaza seraient évacuées. Les Palestiniens ont demandé un calendrier de 6 mois pour l'évacuation de la bande de Gaza, ce qui a été refusé du côté israélien. Sur Jérusalem, on a donc accepté le paramètre de Clinton, ce qui est arabe aux Palestiniens, ce qui est juif aux Israéliens. Les Palestiniens sont prêts à discuter de la requête israélienne de souveraineté sur les quartiers juifs construits à Jérusalem-Est après 1967, sauf Jebel Amouanen et Ras al-Amoud. Lorsque les négociations ont été interrompues, la partie palestinienne n'avait pas accepté le principe d'une souveraineté israélienne sur les implantations se trouvant dans le Grand Jérusalem, notamment Maale Adonim et Givat Ziv. Les Palestiniens ont compris qu'Israël était prêt à accepter une souveraineté palestinienne sur les quartiers arabes de Jérusalem-Est, y compris une partie de la vieille ville. La partie israélienne a compris que les Palestiniens étaient prêts à accepter une souveraineté israélienne sur le quartier juif de la vieille ville et une partie du quartier arménien. Les deux parties ont accepté que Jérusalem resterait ville ouverte, capitale de deux États. La partie israélienne a exprimé son intérêt et son inquiétude concernant le secteur défini comme étant le bassin sacré, qui inclut le cimetière juif du Mont des Oliviers, la cité de David et la vallée du Kidron. La partie israélienne a confirmé qu'elle était prête à tenir compte des intérêts israéliens à condition que ces lieux restent sous souveraineté palestinienne. Les Israéliens ont suggéré pour ce bassin sacré un régime spécial, une forme d'internationalisation ou un régime conjoint reposant sur la coopération et la coordination. les Palestiniens n'ont pas accepté ces idées, la discussion peut continuer. Les lieux saints, le mur occidental et le mur des lamentations. Les deux parties ont accepté le principe d'un contrôle respectif par les deux parties de ces lieux saints, contrôle, religion et gestion. Selon ce principe, la souveraineté israélienne sur le mur occidental serait reconnue, bien qu'un désaccord subsiste sur la délimitation du secteur représenté par le mur occidental, et surtout le lien avec ce que les paramètres de Clinton qualifient d'espace sacré du judaïsme dont le mur fait partie. Je vous rappelle que c'est la distinction entre mur occidental et mur de lamentation. La partie palestinienne a pris note de la demande d'Israël d'établir un lien avec la partie sacrée du mur occidental, mais exprime des réserves quant à la délimitation, voilà, du mur, etc. Les parties sont tombées d'accord pour estimer que la question Aram et Shérif Mont du Temple n'a pas été résolue. Une proposition officieuse a été soumise. Pour une période agréée de 3 ans, le Aram et Shérif Mont du Temple passerait sous la souveraineté internationale de 5 membres permanents du Conseil de sécurité plus le Maroc, ou toute autre présence islamique. Durant cette période, les Palestiniens seraient les gardiens des lieux saints. Ensuite, si les parties ne sont pas parvenues à trouver une nouvelle solution ou à proroger l'arrangement existant, elles reviendraient à l'application de la formule de Bill Clinton. Cette formule n'a été ni acceptée ni rejetée par les parties. En ce qui concerne les réfugiés, des non-papiers ont été échangés, considérant comme une bonne base de discussion. Alors, ce qui est intéressant dans le document Maratina, c'est que c'est une nouveauté dans l'histoire diplomatique internationale, c'est la question du récit. La partie israélienne a présenté un projet de récit commun au sujet de la tragédie des réfugiés palestiniens. Elle a été examinée par la partie palestinienne et des progrès ont été accomplis, bien qu'aucun accord n'a été conclu. Pour la première fois dans une négociation, on discute du passé sous forme de récit. Et c'est une nouveauté, parce que, par exemple, à Versailles, on a bien dit que l'Allemagne était responsable de la Première Guerre mondiale, mais c'était une responsabilité au sens juridique du terme et non pas une responsabilité au sens historique du terme. Tandis que là, pour la première fois, on a une négociation sur le contenu de l'histoire, qui n'aboutit pas, mais c'est une nouveauté dont les historiens se félicitent éventuellement pour l'avenir de leur profession. Donc ensuite, on discute des retours, rapatriements, etc. On discute de la sécurité, des stations d'alerte, du calendrier du retrait. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le document Moratinos, à la validité contestée, ayant une valeur temporaire, représente le point ultime du processus engagé à Oslo. Il marque à la fois l'ampleur des progrès effectués et leur degré d'inachèvement. Avec les paramètres de Clinton, il constitue le point de référence pour les négociations suivantes qui vont continuer de tourner autour de ces principaux axes, puisque ce qu'on appellera le document de Genève de 2005 sera un essai de cartographie des paramètres de Clinton. Et ensuite, les négociations de 2008-2009 et les négociations récentes vont toujours partir du point fondamental de savoir si les paramètres de Clinton sont, oui ou non, les points de départ pour la négociation. C'est en ça, si vous voulez, que les paramètres de Clinton, le document Moratinos et ensuite le document de Genève sont considérés comme les points de référence essentiels pour la suite des négociations, parce que pour la première fois, ces documents envisagent une sortie concrète, une solution politique concrète. Ce qui est terrible, évidemment, c'est que ces documents sont arrivés trop tard. Donc, les derniers jours du gouvernement Barak, le communiqué commun Taba peut apparaître comme un soutien palestinien à la candidature de Barak, et en tout cas est interprété comme tel, et immédiatement Sharon fait savoir que ses propositions ne seraient pas considérées comme d'actualité, au cas où il serait élu premier ministre. Arafat ne ménage pas les positions de Barak. Lors du Forum économique mondial de Davos, ensuite, il l'attaque sans nuance en présence de Shimon Peres. Le gouvernement israélien actuel mène depuis 4 mois une guerre sauvage et barbare, ainsi qu'une agression évidente, fasciste et militaire, contre notre peuple palestinien. Et du coup, Barak annule tout projet de sommet avant l'élection du 6 février. La déclaration de Barak, d'Arafat et la réaction de Barak annulent les effets positifs immédiats de Taba, d'où le maintien de la violence à un niveau élevé. Il devient clair qu'Arafat est loin d'avoir un contrôle strict de la situation sur le terrain, avec la multiplication des affaires de raquettes, d'enlèvements crapuleux, voire d'assassinats des personnalités palestiniennes dénoncées comme corrompues, le tout au nom de la cause de la lutte armée. Quant au chef du Fatah, il ne parle que d'une intensification du combat, ne croyant qu'en l'épreuve de force pour réaliser les buts nationaux palestiniens. Il faut bien comprendre que, comme souvent dans ces mouvements populaires, un côté lutte des classes ou lutte des groupes, c'est adjoint à la lutte nationale. C'est toute la classe des VIP, des corrompus de l'autorité palestinienne, souvent confondus avec ce qu'on appelle les Tunisiens, c'est-à-dire ceux qui sont de retour de Tunis avec Arafat, qui est remise en cause par le mouvement populaire. Donc, les gens ont beaucoup de difficultés parce que s'ils essayaient de marquer qu'il fallait vers la négociation comme Abou Mazen, on dit que c'est une nouvelle preuve de leur corruption. Donc, ils sont obligés de s'aligner sur les plus radicaux. Alors, en dépit d'efforts de la dernière chance de Barak envers l'électorat arabe, rien ne peut empêcher le désastre électoral. Le 6 février, Ariel Sharon l'emporte avec 62,5% des voix contre 37,4% pour le candidat travailliste. Le taux de participation est de 62%, ce qui traduit l'abstention massive de l'électorat arabe et le désarroi des déçus du processus de paix. Conclusion, on arrive à une conclusion quand même. L'impression dominante à la suite d'élections d'Ariel Sharon et de la radicalisation de la seconde intifada est celle d'un immense gâchis. Dès le 28 septembre 2000, la querelle sur les responsabilités de l'échec du processus de paix a fait rage. Dans une interview recueillie par l'historien israélien Benny Morris et publiée dans le New York Review of Books du 9 juin 2002, Barak donne sa version des faits. Arafat a refusé à Camp David une offre américaine basée sur les résolutions 242 et 338 et proche des demandes palestiniennes. Le leader palestinien n'en a même pas voulu comme base de négociation. Il a choisi délibérément le terrorisme. Ça, c'est la vérité, le reste n'est que bavardage. En disant non systématiquement, Arafat a cherché à extraire le maximum de concessions de la part des Israéliens sans rien céder de son côté. Il n'a fait aucune contre-proposition. En vérité, il veut un État palestinien sur toute la Palestine et non deux États pour deux peuples. Il pousse à ce qu'Israël devienne un État de tous ses citoyens, où les Juifs deviendraient progressivement une minorité, ce qui signifierait la destruction d'Israël comme État juif. C'est le sens de l'insistance sur le droit au retour des réfugiés. Arafat refuse d'accepter le peuple juif comme nation ayant des droits historiques, d'où sa non-reconnaissance de l'existence du temple juif à Jérusalem. Barak poursuit en affirmant qu'Arafat et ses compagnons sont les produits d'une culture dans laquelle dire un mensonge ne crée pas de dissonance. Il ne souffre pas du problème de dire des mensonges qui existent dans la culture judéo-chrétienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de faire des détecteurs de mensonges chez les Arabes et les musulmans. Il y a seulement ce qui sert son but et ce qui ne le sert pas. Ils se voient eux-mêmes comme les émissaires d'un mouvement national pour tout ce qui est permis. Il n'y a rien pour eux qui soit la vérité. Et Barak continue en donnant des exemples de ces dissonances. Arafat a été incapable de se hisser à la hauteur d'un Sadat ou d'un roi Hussein. L'ancien premier ministre reconnaît que l'expansion de la colonisation a été un facteur aggravant, mais il affirme ne pas avoir créé de nouvelles colonies, simplement honorer les engagements des gouvernements précédents. De toute façon, ces nouvelles constructions auraient été soit dans les territoires cédés à Israël, soit accordées aux Palestiniens qui auraient pu installer leurs réfugiés. Il admet que les Palestiniens pouvaient y voir une expansion permanente et qu'il a agi pour apaiser la droite israélienne, qu'il avait besoin de calmer pendant qu'il avançait vers la paix et ultimement vers le retrait des territoires. Au passage, donc, il dit qu'il était en train de mentir à la droite israélienne. La cantonisation des territoires palestiniens est un mensonge. Bien sûr, la séparation de Gaza et de la Cisjordanie est inévitable, mais la Cisjordanie n'aurait été coupée qu'à un seul endroit par une ligne étroite allant de Jérusalem au Jourdain. La continuité aurait pu être assurée par un pont ou un tunnel. Barak considère que la paix est toujours possible sur la base de ses propositions, mais qu'il faut attendre une nouvelle génération de Palestiniens qui n'a pas connu 1948 et qui ne souffre pas du syndrome du saumon, Salmon syndrome en anglais, c'est-à-dire l'animal qui veut revenir sur son lieu de naissance. On comprend la colère de Barak, qui s'était vu comme l'homme qui mettrait fin au conflit, mais on perçoit les inconséquences logiques de son discours. Comme on a vu, il ment lui-même à la droite israélienne sur la question des colonies. Il ne voit pas que Arafat ne demandait pas plus et pas moins que Sadat et le roi Hussein, c'est-à-dire le retour aux lignes de juin 1967. Il ne se rend pas compte que le syndrome du saumon est la base du sionisme après 2000 ans d'histoire. On voit dans ses propos l'insécurité existentielle de l'État d'Israël du fait de son déficit de légitimité dans le Moyen-Orient. Il n'est tout simplement pas possible pour les Palestiniens d'admettre la légitimité de l'État d'Israël comme État juif si cela sous-entend la légitimité de leur expulsion. Ils ne peuvent le reconnaître comme existant et non pas comme légitime. Une paix véritable ne peut se faire qu'en remettant en cause en partie les fondements du sionisme, c'est-à-dire par la reconnaissance que ce projet n'a pu se réaliser qu'en portant tort aux habitants de la Palestine, en les forçant au minimum à être transférés ailleurs, sinon à être cantonnés dans des réserves. La violence du conflit réside dans ce fait élémentaire et non dans la méchanceté des gens. Depuis le début, toutes les tentatives de compromis ont cherché à dépasser ce jeu à somme nulle où il y a un perdant et un gagnant pour arriver à une solution de gagnant-gagnant. Mais on n'y est jamais arrivé. Oslo était jouable si on était entré dans un processus de décolonisation, mais en fait on est allé dans le sens d'une colonisation et d'une cantonisation renforcée par le biais des accords intérimaires et des routes de contournement. La déception palestinienne a été totale et très rapidement les intéressés ont ressenti l'autonomie comme une perpétuation de l'occupation par d'autres moyens. La dépossession n'a jamais été aussi forte que durant l'application des accords. C'est là où réside la contradiction essentielle du processus. En remettant le règlement des questions fondamentales, c'est-à-dire Jérusalem, les lieux saints, la définition territoriale et les réfugiés, on rendait impossible ce qui était l'essence du projet, l'établissement d'un climat de confiance qui aurait dû permettre de résoudre les antagonismes. Israël a dès lors cherché à renforcer les faits établis comme les blocs de colonisation afin de pouvoir traduire ensuite en droit ce qui était acquis sur le terrain. En même temps, toute rétrocession aux Palestiniens était vécue comme un abandon sans contrepartie. La limite du pragmatisme israélien se trouvait là. En dehors de la légitimation palestinienne à acquérir par la proclamation de la fin du conflit, on procéderait à une séparation des populations qui mettrait fin à la menace démographique arabe. Pour reprendre les termes attribués à Lévi-Eshkol, on sacrifierait une partie de la dot tout en conservant l'autre et on se débarrasserait de la fiancée. Pour les partisans du grand Israël, conséquent avec la logique du projet sioniste, cet abandon était déjà insupportable, puisqu'il constituait un renoncement à leurs revendications historico-religieuses au profit de garanties solides de sécurité. Le troc du symbole contre le concret était inacceptable, c'est ce qui a coûté la vie à Yitzhak Rabin. Il était possible d'objecter que l'on pouvait faire était de dire qu'on ne gagnait rien à un tel échange en matière de sécurité. Après l'assassinat de Rabin, la nécessité de maintenir une certaine forme d'union nationale a conduit à la marginalisation des Arabes israéliens, tandis que la droite se ralliait au moins en parole à un processus de paix qui était conçu comme une cantonisation extrême des Palestiniens. L'essence du problème réside dans le fait que la dite fiancée revendique la totalité de sa dot, ou au moins son équivalent. À la grande consternation des autres partenaires du processus de paix, les Palestiniens ne veulent pas entrer dans la fiction d'une dépossession qui serait présentée comme une victoire. Ils refusent d'admettre que le rapport des forces écrasant leur défaveur dans le droit puisse être traduit de façon définitive. Ils rejettent le cadre d'un apparent donnant-donnant qui doit être la négociation, car ils ont déjà donné en abonnant 78% de la Palestine historique. Ils ont la conviction qu'ils détiennent la carte ultime, puisque la fin du conflit dépend exclusivement d'eux. Deux juridismes s'opposent. Pour les Palestiniens, le droit est pour eux, puisque les résolutions des Nations Unies, y compris celles du Conseil de sécurité, ont fixé que toute la colonisation, y compris celle de Jérusalem, est illégale. Il ne faut donc que négocier dans le cadre de l'application de ce droit, auquel s'ajoute le principe fondamental du droit à l'autodétermination. Or, les Américains ont suivi les Israéliens en mettant de côté ces droits au bénéfice d'une négociation définie comme pragmatique. Tout en écartant cette base juridique, Américains et Israéliens entendent établir un nouveau droit fondé sur les accords qui mettraient fin au conflit. En quelque sorte, les Palestiniens n'auraient accès au droit qu'à condition d'abandonner une partie de leurs droits. Les faiblesses palestiniennes sont nombreuses. L'autoritarisme d'Arafat, sa pratique de la corruption et du clientélisme, son désordre administratif organisé, sont en confluent des pratiques étatiques arabes et des nécessités du processus de paix. Pour pouvoir établir l'autorité palestinienne et la consolider, il faut créer une série de groupes bénéficiaires du processus englobant des VIP, hommes politiques et hommes d'affaires comme les déscolarisés de la première intifada, entrant en masse dans les services de sécurité. Mais par tempérament comme par nécessité politique, Arafat s'est toujours refusé à la guerre civile qui aurait éliminé physiquement l'opposition armée au processus au nom de la lutte contre le terrorisme. Ses interlocuteurs auraient pu se rappeler que les chefs du mouvement de libération nationale ne s'y sont résolus qu'une fois l'État obtenu, que ce soit Michael Collins en Irlande ou Ben-Gurion en 1948. Si Arafat n'était pas Mandela, on ne peut pas dire non plus que les premiers ministres israéliens fussent des De Klerk, en dépit des prix Nobel de la paix accordés aux uns et aux autres. Arafat, comme la plupart des dirigeants arabes de sa génération, s'est trouvé incapable de gérer une double ou une triple audience. Son propre peuple, les Israéliens, et la communauté internationale dominée par les Américains. En donnant trop dans la rhétorique de paix et de pacification, souhaitée par le second et la troisième, il donnait l'impression au premier, soumis aux difficultés des pratiques sécuritaires israéliennes, de trahir, mais s'il prenait un ton trop militant, il apparaissait aux autres comme allant contre l'esprit du processus de paix. Les simples changements de rhétorique fondés sur les références culturelles différentes le mettaient en position d'être accusé de pratiquer un double ou triple discours. Même Mandela n'aurait pu agir si l'apartheid n'était pas parallèlement démantelé. La violence du Hamas et du djihad islamique a bien évidemment influé sur les événements. Elle a entraîné l'échec de Shimon Peres et l'arrivée au pouvoir de Netanyahou. Mais ensuite, elle a joué un rôle marginal. Les dernières années du processus de paix ont été les moins violentes de la période. Arafat a réussi à neutraliser le Hamas, qui a fait le diagnostic sûr que, de toute façon, la politique israélienne réussirait à faire échouer le processus de paix. Le retard pris a certainement pesé sur la suite des événements, mais c'est surtout l'incapacité israélienne de tenir les engagements pris qui a compté et qui est responsable. La querelle permanente sur les désengagements a fini par désespérer les Palestiniens. Si Shimon Peres était resté au pouvoir, le retour au réel qu'a dû opérer douloureusement Barak se serait produit plus tôt et peut-être dans un meilleur contexte. Dans la phase finale de la négociation, Arafat a bien manœuvré dans l'ensemble en grignotant les positions de l'autre partie sans rien céder sur l'essentiel. Avec le début de la seconde intifada, il a plutôt cherché à surfer sur la vague qu'à la canaliser. Il a dû comprendre très tôt qu'elle était aussi un soulèvement contre ce mode de gouvernement et les gens du retour qui l'accompagnaient. L'échec du processus de paix n'est pas dû à la corruption de l'autorité palestinienne, mais à l'incapacité de cette corruption à empêcher un second soulèvement. Les profiteurs ont été balayés par le mouvement ou ont été conduits à le suivre pour ne pas être balayés. Seul Abu Mazen s'est opposé à la militarisation de l'intifada. Cette dernière a d'abord été une manifestation de colère issue de la base sociale et militante du Fatah et suivie par la population. Mais le modèle libanais a été un dangereux leurre. Le Liban Sud ne représentait pas le caractère vital de la Cisjordanie pour Israël et le Fatah, avec son désordre institutionnel, était incapable d'avoir une pensée stratégique cohérente et graduée, contrairement au Hezbollah, qui a toujours agi par calcul savant, au moins dans cette période. Barouti n'était pas Nasrallah, qui a su retourner contre Israël la logique de dissuasion. Le projet sioniste était impensable sans la Terre sainte. Aucune autre terre n'aurait pu mobiliser autant d'énergie et de soutien en dépit des tragédies juives du XXe siècle. Mais c'est là où réside l'irréductibilité du conflit. Le sommet de Camp David s'est fracassé sur la question de Jérusalem et en particulier sur le mont du Temple, l'esplanade des mosquées. Avec une confusion totale du national et du religieux chez les Israéliens comme chez les Palestiniens et un biblisme américain incompréhensible pour les musulmans, le conflit s'est polarisé sur le lieu saint par excellence, d'où est ensuite partie l'explosion finale. Certes, la question des réfugiés a eu son importance, mais on n'a pas vraiment négocié sur ce sujet, pour lequel on entrevoyait un mélange de symboles et de pragmatisme. Contrairement à la thèse de gens qui disent que le processus de paix a échoué sur la question des réfugiés, non, des réfugiés, sur Jérusalem et sur l'esplanade. Pourtant, un diplomate français qui avait assisté à Taba affirmait sur le moment, ça c'est un souvenir personnel, que ce n'était pas un échec, mais un non-achèvement. Et il entrevoyait que la phase suivante des négociations serait contrainte de passer par les paramètres de Clinton et le relevé de Moratinos une fois que ces données auraient été cartographiées et quantifiées. De même, le retour à l'histoire a été imposé avec la nécessité d'un récit accepté sur 1948. Si on trouve une solution au XXIe siècle, ce sera obligatoirement sur cette base, c'est-à-dire d'un côté sur une cartographie extrêmement précise des propositions et non plus des paramètres lâches et vagues, avec des bases rigoureuses d'échanges. Encore ces jours-ci, Abu Mazen indique qu'il acceptait les 22%, mais il ne descendrait pas au-dessous des 22% de la Palestine historique. Et sur le retour à l'histoire. qui est absolument indispensable pour neutraliser, je ne dis pas pour résoudre, parce que vous ne pouvez pas résoudre un conflit de légitimité, mais pour neutraliser le conflit des légitimités. Et donc, ça renvoie évidemment à 1948, voire à 1917. Voilà, vous pouvez sentir ma petite émotion personnelle, puisque ça fait 20 ans que j'ai engagé ce travail, que le cinquième volume va sortir au mois d'avril de l'année prochaine aux éditions Fayard, et que donc je quitte avec vous ce soir. Enfin, je continue quand même à réviser mon texte pour l'éditeur, mais ça c'est de la besogne éditoriale standard. C'est donc que je clôt avec vous ce soir un cycle de travail qui a duré une vingtaine d'années, même si j'ai fait d'autres sujets en parallèle. Donc la fois suivante, nous changerons complètement de sujet et d'époque, puisque j'avais prévu au départ de vous faire un cours sur la Première Guerre mondiale, et puis je me suis aperçu qu'il était d'abord nécessaire de traiter du 19e siècle. Le cours suivant va porter sur les provinces arabes de l'Empire ottoman dans le 19e siècle, à l'époque de la question d'Orient, ce qui impliquera aussi un gros travail sur l'Anatolie et les Balkans ottomans. Et on est parti peut-être pas pour 20 ans, mais en tout cas pour un certain nombre d'années. Je vous remercie. Je vous rappelle que la semaine prochaine, il n'y a pas cours.